Corinthiens chapitre 2 et le verset 14 nous dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, c'est-à-dire l'ancienne alliance, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, du salut, est de beaucoup supérieur. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager était glorieux. Si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Bon, l'apôtre Paul développe toute sa pensée et on ne va pas aller jusque dans ces derniers mots, mais je voudrais simplement retenir ce qui va attirer notre attention, eh bien, ce verset de l'Écriture où, au verset 3, au chapitre 3, verset 3, il nous est dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ». Alléluia. Et c'est cela dont je voudrais retenir avec vous. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Alléluia. Vous avez remarqué que dans ce contexte, l'apôtre Paul est en train de dire que les Corinthiens, qu'il connaît bien, parce que c'est une église, eh bien, c'est une ville dans laquelle l'apôtre Paul est resté un certain temps, un an et demi. Il a prêché l'évangile. C'est aux Corinthiens auxquels il dira « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dieu a approuvé cette prédication en accordant des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Il y a eu des conversions. Il s'est établi à Corinthe une église d'une certaine taille, avec une vie, avec une vivacité. Et l'apôtre Paul dira même « Il ne vous manque aucun don dans l'attente que vous êtes du jour de Christ. » Donc nous sommes face à une église qui a tout reçu, qui a connu un enseignement de très grande qualité, celui de l'apôtre Paul, qui a marqué cette assemblée. Et puis, comme dans toute assemblée, il y a parfois des temps de tempête, et dans nos vies aussi, parfois personnelles, ça secoue un petit peu. Et puis, alors on appelle l'apôtre Paul au secours, parce que c'est lui qui a prêché l'évangile. Et puis, dans cette première épître aux Corinthiens, il va rétablir les choses. Alors, il y a des choses qui doivent être rétablies quant à comment on fait pour prendre la Sainte Cène, comment le mariage chrétien, qu'est-ce que c'est, etc. Des questions très pratiques, même parfois vestimentaires, où l'apôtre Paul, avec mesure, amène à ce que l'habillement d'un chrétien, ce soit quelque chose qui soit fait dans la pudeur, dans la décence, etc. Et d'autres questions également très pratiques. Et puis, alors, comme certains voulaient être les premiers dans cette église, quoi qu'il y a pas, on est tous, on le verra, on est tous au même pied d'égalité, on est aimés d'un même amour, on fait tous partie d'un même corps, il n'y a personne qui est... on est tous les uns au service des autres. Certains qui n'étaient pas d'accord, dire mais Paul quand même, etc. Et il devrait nous donner une lettre de recommandation, que vraiment il est approuvé par les autres. Parfois on a des frères et sœurs, et peut-être certains d'entre vous, vous l'avez fait, vous êtes venus auprès de moi, surtout les frères et sœurs qui viennent d'Afrique, j'ai remarqué, mais ils viennent avec une lettre de recommandation de leur pasteur. Et le pasteur dit, mademoiselle Intel vient à Montpellier pour ses études, elle a été monitrice dans l'école du dimanche, elle a un très bon témoignage, merci de l'accueillir, etc. Signé le pasteur Intel de l'église, voilà, Abidjan, etc., ou ailleurs. Voilà, et c'est une lettre de recommandation. Je trouve que c'est bien, parce qu'au moins on sait à qui on a affaire, vous voyez. Mais là, l'apôtre, on demande, alors que les chrétiens de Corinthe sont là, ils demandent à Paul, qui c'est qui te recommande ? Quand même, vous le connaissez. Il dira, mais c'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous qui êtes notre lettre de recommandation. Vous savez très bien ce que l'on prêche. Et si vous êtes ce que vous êtes, et l'apôtre Paul dira, vous pouvez avoir plein de pères, etc. Néanmoins, c'est moi qui vous ai enfanté en Jésus-Christ. C'est moi qui vous ai amené au Seigneur. Alléluia. Il dit pas ça par orgueil, mais c'est la vérité. Il leur a prêché l'évangile. Alléluia. Et l'apôtre Paul profite de cette situation où ces lettres de recommandation circulaient déjà dans le milieu chrétien pour leur dire ceci, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite et lue et connue. Alléluia. Amen. Et je voudrais que nous puissions le comprendre, eh bien, ce matin, eh bien, ce que le Seigneur désire, eh bien, que nous puissions comprendre au travers de ce texte, c'est que nous sommes destinés à être lus. Une lettre, c'est fait pour être lue. Alléluia. Et en méditant sur ces textes, j'ai cherché le mot manifestement. Vous êtes manifestement, c'est-à-dire ce qui est découvert, ce qui est manifesté. Et certainement, nous avons besoin également de comprendre ce que nous manifestons. Qu'est-ce que les hommes et les femmes, les frères et les sœurs, voient de ma vie, voient de ta vie, lorsque, eh bien, ils te voient? Puisque l'Écriture nous dit que nous sommes une lettre qui est destinée à être lue. Et peut-être que, même en termes d'Église, qu'est-ce que le monde voit ? Vous savez, la visibilité, la lisibilité, est-ce que ce que nous sommes... Alors certainement, on est visible. On n'est pas invisible, on a un beau bâtiment, on nous voit aller, on a un stand biblique. Est-ce que les gens... Est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce que c'est lisible ? Et toutes ces choses, eh bien, il faut se les poser et comprendre, eh bien, ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Amen. Alors, tout d'abord, on va voir ça, eh bien, que nous sommes une lettre de Christ, une lettre écrite, une lettre lue et une lettre connue, voire même reconnue par le Seigneur. Et on terminera par cela. Est-ce que ce qui est écrit sur notre vie correspond bien à la volonté du Seigneur ? Et que nous ne trouvions pas dans la position de ce que le Seigneur dise, mais ça, je ne l'ai jamais dit. Vous savez, des fois, vous t'as dit ça. Mais non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit. Voilà, je n'ai pas dit ça. Voilà. Et parfois, on se trouve dans ces situations. Et alors, est-ce que notre vie correspond vraiment à la parole de Dieu ? Amen. Vous êtes d'accord ? Vous m'avez suivi jusqu'à présent ? Alors, une lettre de Christ. Tout d'abord, le mot, il est fort. Parce qu'il nous est dit, eh bien, que, eh bien, nous sommes une lettre de Christ, j'allais dire une lettre qui appartient à Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous ensemble, eh bien, nous portons un message qui n'est pas un message qui vient de la terre, qui vient de l'homme, de l'être humain. Nous ne portons pas une philosophie, nous ne portons pas, eh bien, un message, j'allais dire, qui vient de la terre, mais un message qui vient du ciel, un message libérateur. Nous sommes une lettre de Christ. Alléluia! Et ce qu'il y a de merveilleux dans l'Église, c'est que nous sommes tous différents par notre passé, par notre culture, par eh bien, divers aspects de nos vies, mais on se retrouve tous en Christ. Alléluia! Nous sommes là une lettre de Christ. Nous avons un nom, eh bien, qui est commun. Eh bien, c'est le nom de Jésus. Alléluia! C'est pas les chants, et même s'ils sont merveilleux, eh bien, qui nous rassemblent, c'est pas, eh bien, le pasteur ou, j'allais dire, le local, même s'il faut un local pour se retrouver, même s'il faut des ministères également, eh bien, dans l'église. Mais c'est Jésus qui nous rassemble. Alléluia. En méditant sur cela, j'ai retrouvé dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, la description que l'apôtre Paul fera, eh bien, de l'assemblée de Corinthe pour vous convaincre, si besoin était, que, eh bien, notre unité, elle est en Jésus. Eh bien, il est dit ceci, ne savez-vous point, 1 Corinthiens 6, verset 9, que les injustes, les pécheurs, ce qu'on était autrefois, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et cela, ce que vous étiez, quelques-uns de vous, et vous pouvez allonger la liste, hein, parce qu'elle n'est pas exhaustive. On était, pour certains, bien englués dans nos péchés. Et même si on n'était pas dans ces péchés-là, on était quand même avec une nature rebelle. Voyez ? Et l'Écriture nous dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La justice a été rendue, notre frère nous l'a rappelé tout à l'heure, Jésus a payé à la croix du calvaire. Alléluia ! Et nous sommes une lettre de Christ, nous sommes une lettre qui manifeste, eh bien, une révélation. Dieu nous a donné un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus, alléluia. Mon frère et ma sœur, peu importe le pasteur qui t'a baptisé, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que le jour de ton baptême, tu aies confessé le nom de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul même dira à ces mêmes Corinthiens, « Je me réjouis de ce que je n'ai pas baptisé, je n'ai baptisé personne, sauf la famille de Stéphanas, voilà, il y en a quelques-uns qui lui reviennent, mais en majorité, ce n'est pas moi qui vous ai baptisé. » Il ne voulait pas qu'ils pensent que, parce que c'est l'apôtre Paul qui les a baptisés, alors ils deviennent des chrétiens supérieurs. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est l'engagement personnel de ta foi à l'égard de Jésus. Alléluia ! Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia ! Et nous découvrons ici que l'Église, donc, eh bien, ce n'est pas un club, ce n'est pas une amicale, ce n'est pas, eh bien, des gens qui se rassemblent comme ça parce que, eh bien, ça leur fait plaisir, mais c'est le corps de Christ. Alléluia. Nous sommes une lettre, eh bien, une lettre de Christ. Amen. Ce qui confère donc une unité, une cohésion formidable, eh bien, à l'Église. Alléluia. En méditant sur ces moments. Et sur cela, toutes sortes de pensées qui peuvent, eh bien, venir, bien sûr. Mais il est dit, vous êtes une lettre de Christ. Il n'est pas dit, tu es une lettre de Christ. Alors, tu es une lettre de Christ, 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 comme s'il y en avait plein. Nous sommes une lettre de Christ. Je réfléchissais... cette semaine, à cela, c'est vrai que peut-être que notre compréhension des Écritures, voire même notre prédication, a été influencée par notre mode de vie occidental, matérialiste, un peu, et même beaucoup, individualiste. Vous voyez ? Où notre société, quand même, eh bien, prêche le succès personnel, le succès de l'entreprise personnelle. On est dans cette époque-là. Voilà. Et puis, on découvre aussi qu'il existe des prédicateurs qui sont pratiquement des coachs. Voilà. Dieu est avec toi, fortifie-toi et prends courage. Et on puise, eh bien, des versets de la Bible pour conforter, eh bien, des frères et sœurs dans leur démarche personnelle, en leur disant « Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. » Alors je crois que vraiment, c'est vrai, le Seigneur, pour chacun de nous, il a un plan. Nous sommes destinés à jouer un rôle, mais dans le plan général de l'œuvre de Dieu. Et je ne voudrais pas que cette pensée nous ait influencé de telle sorte que, eh bien, on profite de dire, eh bien, Jésus m'a sauvé, Jésus veut me bénir, pour, eh bien, que ce soit, eh bien, un prétexte pour, eh bien, aller dans n'importe quelle direction, parce qu'en réalité, nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes écrits avec le ministère du Saint-Esprit pour un plan glorieux. L'Église ne s'appartient pas à elle-même. Nous avons été rachetés, parfois nous l'oublions. Et nous louons le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Merci Seigneur, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, mais il y a plus dans la marche avec le Seigneur. L'Église, eh bien, a une mission sur cette terre. Vous êtes la lumière du monde. Oui, le Seigneur veut te bénir dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage. Mais il veut que cette bénédiction puisse entrer, eh bien, à son service pour qu'au travers de ton mariage, de l'éducation de tes enfants, de tout ce que tu pourras réaliser, on puisse voir la lettre de Christ, le message de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et peut-être quelqu'un, et moi-même, je me mets... Et là, on est tous ensemble. Peut-être devrions-nous dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ce projet te sert, Seigneur, ce projet de travail, ce projet, eh bien, d'études, ce projet, voilà. Mais Seigneur, si ça rentre pas, eh bien, dans le bénéfice de ta gloire, ferme la porte, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te servir, alléluia, et nous avons un destin, mes frères et sœurs, qui est commun, alléluia, un destin qui est commun. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que cette lettre, donc manifestement, voilà, mais elle est, c'est une lettre qui, et c'est beau ça, hein, écrite, il nous est dit, au travers, eh bien, au moyen, alors bien sûr, le ministère de l'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé. C'est un petit peu comme le stylo, l'apôtre Paul, mais l'encre, c'est celle du Saint-Esprit. Alléluia. Et il dira ceci, on n'a pas, c'est pas gravé sur des tables de pierre, mais le ministère de l'Esprit, il touche direct ton cœur. Alléluia. Et l'Église, elle a besoin de se souvenir de cela. Je l'ai partagé dans la semaine à plusieurs reprises. Il y a une différence entre évangélisation et christianisation. Ce n'est pas la même chose. La christianisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des valeurs qui correspondent à celles de l'Évangile. Elles sont belles, ces valeurs. Hein ? Aime ton prochain comme toi-même. Je pourrais même vous dire qu'il y a des associations caritatives qui sont très loin de confesser Christ comme sauveur, qui manifestent ces valeurs chrétiennes. Les Restos du Cœur, un chrétien, il peut être que d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, tant d'autres choses, etc. Mais il ne me semble pas que Coluche ait souvent parlé de Jésus. Plutôt, il a blasphémé sur le nom du Seigneur, voyez. Et ne pensons pas que, voilà, ah mais parce que je lui donne une petite éducation, parce qu'il a quelques repères. Je me souviens d'un garçon, eh bien, qui était un ami de travail, voyait un petit peu la société se déliter, et il me disait ceci, on devrait remettre à l'école les cours de morale. Moi, j'ai jamais connu ça, et je crois que lui-même ne l'avait jamais connu. Alors, mais on devrait remettre, et j'ai dit, ouais, mais enfin, et toi, regarde. Tu vis à la colle, ta copine, ceci, ça. Tu vis dans le péché, mais tu veux des retours. Et commence par toi-même. Voyez ? Et mes frères et sœurs, nous voulons faire attention à une chose. C'est pas, eh bien, ce ne sont pas des valeurs, eh bien, sociales ou je ne sais quoi, eh bien, qui sont capables, eh bien, de changer un cœur. Et l'ordre du Seigneur, souvenez-vous, c'est pas de christianiser, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher l'Évangile. Qu'il y ait des cœurs à cœur entre Dieu et les hommes, alléluia, un impact des hommes et des femmes qui soient percutés par le beau message de l'Évangile, que tandis qu'on témoigne de Christ, tandis qu'on prêche Christ, eh bien le Saint-Esprit confirme cette prédication et touche au cœur à cœur, alléluia, amen. Et c'est cela dont l'apôtre Paul, eh bien, que l'apôtre Paul expérimentera, eh bien, à Corinthe. J'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dira, mais c'est une folie pour les Grecs, c'est un scandale pour les Juifs. Et il pourrait se dire, mais intellectuellement parlant, je vais parler de Jésus à des hommes qui comprennent rien à rien, ils n'ont même pas la culture judéo-chrétienne, on pourrait dire aujourd'hui. Je m'en fiche, moi, c'est pas une culture que je veux prêcher, c'est la personne de Jésus, alléluia. Et le Seigneur, il confirme, il révèle, il fait ses œuvres, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et je crois qu'également, nous aussi, en tant que parents, eh bien, en tant que, eh bien, frères et sœurs, nous avons besoin, eh bien, de revenir à ces choses-là, que le Saint-Esprit agisse, qu'il touche, qu'il convertisse, alléluia. Souvenez de Zachée, on ne va pas le lire, mais l'expérience de Zachée, Luc 19, mon épouse me dit souvent, tu parles souvent de Zachée. Oh, j'aime bien Zachée, il est dans son arbre. Il y a un prédicateur un jour qui prêchait sur Zachée, et donc, vous savez, Jésus s'approche de cet arbre et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et ce prédicateur, il se mélange un peu les pinceaux, parce qu'il y a Zachée, et puis après il y a Bartimée, c'est à Jéricho. Et il dit, Jésus lève les yeux et dit, Bartimée. Alors là, il est, mais Bartimée, qu'est-ce que tu fais dans l'arbre de Zachée? Voilà. Et ouais, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais Zachée, ça a été l'homme le plus heureux du monde, recevoir le Christ, le Fils de Dieu dans sa maison. Je crois qu'il n'a pas simplement reçu dans sa maison, il a reçu dans son cœur. Et le Seigneur a tout changé, transformé. Il a écrit, non pas sur des tables de pierre, tu es un pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a écrit dans son cœur, oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je t'aime, malgré la déchéance, malgré la débauche, malgré tous tes excès, et je suis venu pour te sauver. Le cœur de cet homme est touché, et j'allais dire, son ADN spirituel, sa nature est complètement transformé, complètement changé. Avec cette rencontre avec Christ, par cette rencontre avec Christ, il devient un homme nouveau. Le mal que j'ai fait, je le répare. Je répare au quadruple. Je rends 4 fois celui que j'ai volé. Et puis la moitié de mes biens, je les donne aux pauvres. C'est plus l'argent. Mais je le comprends. Je comprends. Quelqu'un dira, ouais, il est excessif. Oui, mais écoutez, mettez-vous à la place d'un homme qui était lié par l'argent. Mettez-vous à la place de quelqu'un pour être lié par la musique. Et quelques temps en arrière, on avait reçu pour mettre en place toute cette sono-là un frère qui s'appelle Jacques Cudeville, qui est un guitariste. Il a joué avec les plus grands, Carlos Santana, Bob Dylan, Johnny Hallyday, super guitariste. Et il a rencontré Jésus alors qu'il jouait dans le groupe ACDC. Vous voyez ? Il disait, on était sous emprise. Il y avait des médiums qui venaient et qui nous mettaient dans un état pour qu'on soit sous le contrôle des puissances ténébreuses et que le public aussi soit comme ça. Et lorsqu'on m'a parlé de Jésus, les pasteurs qui m'ont rencontré ont jeûné une semaine avant de me voir. J'étais possédé. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'a libéré, alléluia. Il m'a délivré, il a fait de moi une nouvelle créature, il a brisé ses chaînes et il a dit ceci, j'ai continué dans le domaine de la musique pour vivre parce qu'ingénieur du son, il a fait des études super à New York, etc., près des plus grands. Mais il a dit, mais la guitare, plus jamais. Son fils, il conduit la louange à Antibes. Il joue très bien de la guitare. Mais lui, il a dit non. C'était l'objet de ma rébellion. Mais je le comprends. Il y a des trucs dont le Seigneur nous a libérés. On regarde ces choses et on respecte la guitare, il n'y a pas de souci, mais même avec dégoût. On est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et on ne veut pas que ces choses anciennes et passées reprennent le dessus sur nos vies. Alléluia, amen. Et on veut marcher au Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, pour les guitaristes, on en a. Hein, là. Voilà, gloire à Dieu. J'aime beaucoup la guitare. Mais lui, pour lui, c'était une occasion de chute. Ça représentait une vie. Imaginez un groupe satanique, etc. Mais je ne veux plus, voilà, pour moi c'est terminé. Et il y a des choix quand on veut marcher avec le Seigneur, alléluia. L'Écriture dit, mais si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute, eh ben arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne, manchot, dans le royaume de Dieu, que d'avoir ton œil, ta main, et puis eh bien, d'entrer dans, et d'être jeté dans la flamme eh bien, de l'enfer, dans la géhenne, hein, nous dit le Seigneur. Et tout cela eh bien, se comprend. Mais vous voyez que c'est une conviction personnelle. C'est le Saint-Esprit qui a transformé nos cœurs, alléluia, qui a écrit eh bien, sur la table de nos cœurs, alléluia. Et mes chers frères et sœurs, je parlais de christianisation, d'évangélisation, etc. Certainement, nous avons besoin de faire attention de ne pas perdre l'action de l'Esprit au milieu de nous. Amen. De ne pas perdre cette action. Certainement, on y reviendra dans des semaines. Mais l'histoire de l'Église, telle que l'Apocalypse nous la révèle, pour l'Église, ça nous donne quand même à être vigilants. Parce que ça commence par Éphèse en disant tu as perdu ton premier amour. Et la fin, c'est Jésus qui frappe à la porte, qui est dehors. Un christianisme sans Jésus, une église sans Jésus, est-ce possible ? L'eau, elle est tiède. C'est pas beau. Il y a des scandales, il n'y a pas vraiment de victoire. C'est bizarre. Et en méditant sur ces moments, je me suis même dit, mais c'est grave. Vous savez, quand une maison est vide, vous souvenez de cette parabole de Matthieu 12, 44-45, on ne va pas le lire. Hein. Mais vous savez, quand un démon a été chassé d'une vie et qu'il trouve la maison vide, balayée, ornée, il prend sept autres esprits plus méchants que lui, il investit. Et l'état de la personne est pire, eh bien, à la fin qu'au début. Mes frères et sœurs, on sait qu'il y a des assemblées qui ont voulu faire sans Jésus la culture, l'humanisme, la philosophie, et on vient à justifier le péché. Et la condition, elle était pire qu'avant. Je n'entre pas dans certains détails parce que je ne veux pas nommer de fédération ou de toutes ces choses, mais je laisse simplement cela sur votre cœur. Et notamment un certain Démas dans la Bible de Timothée 4:10, dont Paul dira « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Mes frères et sœurs, on ne veut pas perdre la vie de l'esprit. Alléluia ! On ne veut pas perdre toutes ces choses, que le Seigneur agisse dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que cette lettre qui est la lettre de Christ, ce que nous sommes, cette lettre qui a été écrite par Jésus, alléluia. Est-ce que vous avez envie que Jésus encore écrive dans vos cœurs ? Moi, je sens que le Seigneur, il a besoin encore d'agir. Alléluia. Il a besoin de transformer mon caractère, de me rendre plus spirituel, plus sensible encore à lui. Alléluia. Eh bien, cette lettre, elle est destinée, le but d'une lettre, c'est destiné à être lu, à être lu. Et peut-être qu'on a besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qui doit être lu ? Et se dire, on a des exemples quand même de chrétiens. Tout à l'heure, pour la Sainte-Seine, je vous ai lu un passage de l'Église de Jérusalem. Et on pourrait se poser, il y a plein d'exemples d'hommes, de femmes de foi. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a vu dans leur vie ? Qu'est-ce qu'on a lu dans leur vie ? Alors, je vais prendre trois exemples, mais rapidement. Regardez, acte 4, verset 13. Regardez c'est Pierre cette fois-ci. Pierre, acte 4, 13. Il nous est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du passant d'instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce qu'on devrait voir chez des hommes et des femmes qui sont la lettre de Christ, chez nous par exemple, c'est de l'assurance par rapport à notre message. On a le bon message. On prêche Jésus-Christ et on n'a pas à avoir honte de Jésus. Alléluia. Ces hommes, ils étaient, vous voyez, ce n'est pas une histoire d'études. Ils étaient sans instruction, mais on les reconnut pour avoir été avec Jésus. Ils avaient une communion avec le Seigneur. C'était quelque chose qui avait marqué leur vie. Mais enfin, la rencontre avec Jésus, ça marque la vie de quelqu'un. Alléluia, amen. Et il y avait cette assurance, il y avait cette autorité. Alléluia. Et peut-être que l'Église a-t-elle besoin de revenir à cette autorité pour dire il y a un seul chemin, une seule vérité qui conduit à la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a eu une évolution, je me souviens, lorsque je suis entré à la fac, j'ai arrêté le lycée en 1990, et vous souvenez, alors je parle à ceux qui connaissent cette époque-là, il y a eu la chute du mur de Berlin, vous souvenez, l'effondrement du bloc soviétique. Et ça bouleversait le monde à ce moment-là, parce qu'on avait des repères. Il y avait les gentils, nous on était les gentils, et les autres c'était les méchants. Mais comme les méchants n'existaient plus, on s'est dit, et il y a une pensée qui avait dit, tout est relatif. Avant la vérité, elle était bien marquée, le bien, le mal, etc. Et ça nous arrangeait de dire qu'on était du côté du bien, bien que, bref, on ne va pas faire d'histoire. Mais, voilà, et là on a dit, mais tout est relatif. Tout est relatif. Et peut-être que l'Église aussi s'est engluée là-dedans. Et peut-être qu'on a besoin de dire avec force, non. Le Coran et la Bible, c'est pas le même sujet. Hein. C'est pas le même Dieu. Il peut y avoir le bouddhisme, des réflexions, des méditations, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même inspiration. C'est pas à force de vie répétée, le karma, etc. Je vois chez les lycéens, collégiens, ça rentre là. C'est ton karma, voilà. Voilà, karma, tu connais ça? Voilà. Et non. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus, alléluia. Ils n'avaient pas honte de proclamer leur foi. Et mon frère, ma sœur, nous non plus, nous ne voulons pas avoir honte de parler de Jésus. Il y a un deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est l'engagement pour Jésus. Non seulement des hommes qui étaient, des églises entières qui étaient, eh bien, avaient une forte assurance dans la personne de Christ, ne tremblaient pas, mais également, eh bien, un engagement total. Et vous le voyez, par exemple, au travers de l'apôtre Paul. Alors, cet homme, c'est une consécration totale. Eh bien, dans Actes 26, voici ce qu'on rendra témoignage de lui. Vous savez qu'il comparait devant Agrippa, le roi Agrippa, et il dira, suite à son discours, le roi Agrippa dit à Paul, au verset 28, il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et Paul répondit « Que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi encore, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, c'est-à-dire un chrétien, un enfant de Dieu, à l'exception eh bien, de ces liens. » Et à la fin, il nous est dit ceci, tandis qu'il parlait, qu'il se retirait, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché. » Un engagement total. Des hommes qui supportent des injustices, qui supportent des souffrances injustes pour le nom de Jésus. Et je préfère eh bien, souffrir plutôt que eh bien, de renier mon maître. Quel amour! Quel amour! Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, le peuple des Gilets jaunes, je revendique. Hein, hier, on avait une revendicatrice. Hein, voilà, et les jeunes, ils se... Voilà, hein. Non, mais là, c'était autre chose. Hein. Mais des choses qu'on devrait lire. Alléluia. Est-ce que vous ne pensez pas que la vie serait aussi plus facile, même parfois entre nous, si on était capable de supporter peut-être des petites injustices du moment? Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour est patient, n'est-il pas vrai? Amen. Et puis, je termine là-dessus. Acte 5 et le verset 12. C'est acte 6, pardon. Acte 6, on l'avait lu lors d'un précédent jeûne et prière. Il y a un problème. Et Pierre et les apôtres, ils ne peuvent pas tout faire. Ils font la comptabilité, ils servent à manger aux veuves. Et en plus, ils prêchent, ils disent non, il faut qu'il y ait un CA qui se lève là. Voilà, vous choisissez des gens pleins du Saint-Esprit, des frères et sœurs de sagesse. Et au verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère. Et cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et voilà, et tant d'autres. Et il nous est dit, au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre augmentait, des disciples augmentaient beaucoup à Jérusalem. Et c'est-à-dire que nous voyons eh bien, une église, des hommes, des femmes, qui sont animés d'une profonde sagesse. Alors, ils ont de l'autorité, ils ont de l'assurance dans l'adversité. Et ils sont capables de souffrir par amour pour le Seigneur, mais en plus, les problèmes, ils savent les gérer. Alléluia, et en interne, amen. Et ils reçoivent, eh bien, du monde extérieur, un bon témoignage. Alléluia, amen. Et je crois que ça aussi, eh bien, c'est la lecture que le monde eh bien, devrait avoir de l'Église. Alléluia, parce qu'on est observé, on est, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, François, il est là, c'est pour ça. Tes voisins, ils savent que tu es chrétien, ils savent que tu marches avec le Seigneur. Mes voisins aussi savent que je marche avec Jésus. Est-ce que quand ils me voient, je suis une lettre, est-ce qu'ils peuvent dire, ah, ils ne tremblent pas quand il s'agit de parler de Jésus? Est-ce que son engagement, est-ce qu'il se plaint? Est-ce que il y a une certaine sagesse ou c'est une espèce d'uluberlu qui parle de Jésus tout le temps et vous voyez, il est un peu hors sol. Quand j'étais plus jeune, on parlait des TTS. Tu te souviens, Patricia? Les très très spirituels. Ils parlaient de Jésus. Dieu a dit que. Et à la fin, c'était moyen, quoi. Voilà. Et nous, on a besoin de Jésus, alléluia. Et mes frères et sœurs, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, être lisible, être visible, être compréhensible. Amen. Que nous puissions demander au Seigneur tous ensemble. Eh bien, Seigneur, eh bien, je veux être une lettre pour toi. Alléluia. Que quand on voit ma vie, les gens comprennent ce qui se passe. Cet homme, cette femme, il a rencontré le Seigneur, il a rencontré Jésus. Alors peut-être, comment dire, je ne comprends pas trop qui est Jésus. Les évangéliques, ça me semble un peu bizarre. Mais enfin, quand même, quand je vois sa vie, je comprends ce qui se passe. Je lis quelque chose qui est conforme avec ce qu'il me dit. Et puis, c'est vraiment ancré en lui, parce que, ou en elle. Eh bien, parce que lorsqu'il s'agit de prendre position, il ne tremble pas. Je vous donne un témoignage concernant mon épouse. Il y a quelque temps en arrière, vous vous souvenez, on a prié pour la petite Naomi. Vous vous souvenez? Et certaines personnes du quartier, des femmes musulmanes, eh bien, nous avaient été au courant de ça, voilà, de cette petite. Voilà. Et Anne était venue leur dire... Le Seigneur l'a guéri. Jésus l'a guéri. Le Seigneur Jésus l'a guéri. Et ils lui ont dit, Anne, écoute, dis-nous, Dieu l'a guéri et on est d'accord avec toi. Mais ne dis pas Jésus. C'est Jésus qui l'a guéri. Alléluia. Amen. Ça fait toute la différence, hein, François ? J'ai plein de François, là. Voilà. Eh oui ! Et on est une lettre lue. Que le Seigneur nous aide à aimer davantage, à avoir davantage d'engagement, avoir un témoignage qui progresse, alléluia, afin que nous soyons non seulement une lettre de Christ, une lettre écrite, une lettre lue, mais une lettre connue, et j'ai même envie de dire une lettre reconnue. Que le Seigneur puisse dire, je reconnais bien là ce qu'est un enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, s'il y a des trucs qui ne vont pas, efface-les, pardonne-moi. Pas simplement un coup de blanco, mais vraiment, Seigneur, bien efface ces choses. Réécris l'histoire, alléluia, par ton Saint-Esprit. Réécris mon histoire avec toi, l'histoire que tu veux que dans laquelle j'entre, alléluia, celle de ton plan, alléluia. Et je voudrais vous dire ceci, et je termine, alors ça c'est promis, je termine. Celui qui garde la parole de Dieu, il est gardé. C'est ainsi que Jésus nous a appris. Tenté par Satan dans le désert, il garde la parole, et la parole le garde, et il met en fuite l'adversaire. Mais non seulement le Seigneur, mais écoutez, cette belle assemblée, eh bien que tout pasteur aimerait avoir, alors c'est la Mousson, non, là c'est Philadelphie, eh bien, il nous est dit ceci, parce que tu as peu de puissance, c'est Apocalypse 3, verset 8, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 10, il nous est dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. » De l'épreuve, la tentation, hein, qui va venir. Je crois qu'on en a eu, on en a eu un bel aperçu, mais de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Mais bien qu'on termine en se remettant entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur, pour ces moments, Seigneur, pour ces temps merveilleux de louange où nous avons pu chanter, Seigneur, à ta gloire. Seigneur, d'avoir entendu des dons spirituels, Seigneur, nous interpeller. Je pense notamment à ce bien-aimé ou cette bien-aimée, Seigneur, que tu as appelé à revenir à toi. Seigneur, Seigneur, quelqu'un qui s'est éloigné, que tu appelles à revenir à toi, Seigneur. Mon Dieu, que son cœur soit touché en cet instant, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt et nous sommes une lettre de Christ. Seigneur, nous avons un message à faire connaître dans ce monde, sur cette terre. Et je te prie, Seigneur, afin que nous puissions veiller sur notre cœur, afin que ce qui est écrit dans nos vies corresponde bien, Seigneur, à ta parole, à l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Des hommes et des femmes qui sont changés, qui sont pardonnés, qui ont une nouvelle nature, qui aiment même leurs ennemis. Seigneur, qui, Seigneur, sont des frères pour leurs frères, des sœurs pour leurs sœurs. Seigneur, qui souffrent avec ceux qui souffrent, qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent, qui comprennent l'importance de l'intercession, de la prière. Seigneur, de se tenir à la brèche. Et Seigneur, d'aimer ton peuple, ton Église. Seigneur, je te remercie, Père Céleste, pour toutes ces choses. Et je te prie, afin que, Seigneur, peut-être dans nos cœurs à chacun, il y ait comme un sursaut, comme un réveil. Seigneur, afin que nous te laissions, comme tout à nouveau, écrire dans nos cœurs, écrire dans nos vies, l'histoire, Seigneur, ton plan, alléluia, la part que tu veux que nous prenions en tant qu'Église, Seigneur, à ton œuvre. Père Céleste, merci pour la moisson, alléluia. Merci de bénir les frères et les sœurs. Ajoute encore des âmes. Seigneur, nous nous réjouissons des services de baptême qui vont venir. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, ajoute encore des âmes. Alléluia. Et merci de nous faire grandir dans tes voies. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, bon retour à chacun. Je vous rappelle qu'on se retrouve mardi, 19h30. Voilà, la suite du programme, vous l'avez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dieu.